France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 novembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, on compte et on compte aux États-Unis, mais on ne connaît toujours pas le nom du 46e président. Donald Trump et Joe Biden ont de nouveau pris la parole pendant la nuit, nous les entendrons. Nous irons également en Pennsylvanie, où tout pourrait se jouer ce matin. On voit ça au début du journal, après les autres titres, Agnès.
Le ministre de l'Éducation nationale voit sa copie, modalité du bac modifiée et organisation des cours au lycée moitié en présence, moitié à distance, désormais possible. L'épidémie de Covid et ses répercussions toujours plus lourdes pour les plus défavorisés. Emmanuel Macron qui durcit son discours sur l'immigration. Et puis la BNF à la recherche de dons pour sauver un original de Proust.
Des invités et rendez-vous à l'heure américaine ce matin encore sur Inter, 7h45. Le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Lecture économique de cette présidentielle, 8h20, le grand entretien, trois invités, Sylvie Kaufmann, Bertrand Badie, Jean-Marie Guénaud, isolationnisme américain au retour dans le concert des nations. On va parler géopolitique tout à l'heure, vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un Donald Trump de plus en plus seul et se posant en victime d'une vaste fraude électorale qui a donc pris la parole cette nuit depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Visiblement fatigué, le candidat républicain a de nouveau proféré des accusations sans avancer de preuves. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Agnès.
Grégory, vous avez suivi l'intervention de Donald Trump cette nuit, une prise de parole assez confuse.
Oui, la conférence de presse a duré une vingtaine de minutes depuis cette salle de presse de la Maison-Blanche. Donald Trump lève à peine les yeux de ses papiers, ne prend aucune question de journaliste et affirme que les démocrates sont en train d'essayer de lui voler sa victoire. L'intégrité de l'élection est en jeu, dit le président sortant. Trump raconte que Philadelphie, en Pennsylvanie, où l'élection se jouera peut-être tout à l'heure, que Philadelphie est la ville la plus corrompue du pays. On ne peut pas les laisser décider de l'issue de ce scrutin. Il a même des accents complotiste, évoquant des centres de dépouillement où les opérations se feraient derrière des rideaux opaques sans observateurs extérieurs. Le candidat républicain enfin distingue ce qu'il appelle les bulletins légaux et les bulletins illégaux, comprenez ceux envoyés par correspondance.
Si on compte les votes légaux, je gagne facilement. Si on compte les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Si on compte les bulletins arrivés tard, et on les regarde de près, beaucoup sont arrivés tard. J'ai déjà gagné nettement de nombreux États, des victoires massives en Floride, Iowa, Indiana, Ohio, pour en citer quelques-uns. Il n'y a pas eu la vague bleue qu'ils prévoyaient. À la place, il y a eu une grande vague rouge.
Mais dans le ton, dans la forme, même dans la posture physique, Agnès, Trump paraît abattu, beaucoup moins combatif que lors de son allocution prononcée dans la nuit de mardi à mercredi. En vérité, le président donne l'impression de ne plus vraiment croire à sa victoire.
Et la question qui se pose ce matin, Grégory, Donald Trump est-il encore soutenu par le camp républicain ?
Alors, plusieurs élus républicains ont rejeté les accusations de Trump sur l'intégrité du scrutin. Son conseiller Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, désapprouvait les propos du président dès mardi soir. Bien sûr qu'il faut continuer à comptabiliser tous les bulletins de vote. Le gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, accuse lui le président d'abîmer le processus électoral. Voilà pour les critiques les plus sévères. Mais sur Fox News hier soir, deux fidèles du président tentaient bien de le défendre. Les sénateurs Lindsey Graham et Ted Cruz, accréditant eux aussi l'idée d'une élection crapuleuse. Il faudra voir dans les prochaines heures jusqu'à quel point ils soutiennent encore Donald Trump, surtout en cas de défaite.
Merci Grégory Phillips, en direct de Washington. Un peu plus tôt dans la soirée, Joe Biden avait lui aussi pris la parole, très calme. Le candidat démocrate a une fois de plus prôné confiance et patience. L'attente se poursuit donc ce matin. Joe Biden est toujours en tête, mais il reste 5 États en suspens. En Arizona, dans le Nevada, la Caroline du Nord. En Géorgie, 16 grands électeurs en jeu, 98% des votes dépouillés. Et un écart infime entre les deux candidats. Et puis c'est en Pennsylvanie que tout pourrait se jouer. 20 grands électeurs en jeu. Si Joe Biden l'emporte, il sera le 46e président des États-Unis. Farida Noir, vous êtes en direct de Philadelphie. Farida, où en est-on là, maintenant ?
Alors, eh bien, écoutez, situation bloquée ici pour le moment, mais le dépouillement avance. Hein. 95% de bulletins dépouillés à l'heure où je vous parle et seulement 22 000 voix d'écart entre les deux candidats. Trump toujours en tête, mais les courbes ne devraient pas tarder à se croiser puisque Joe Biden est en train de rattraper le candidat républicain. La gouverneure de l'État a indiqué tout à l'heure que les résultats définitifs devraient être dévoilés aujourd'hui. On ne sait pas en revanche précisément à quelle heure ils le seront. Les deux candidats, vous l'avez dit, ont pris la parole aujourd'hui. Joe Biden pour demander aux Américains de rester calmes. Et puis Donald Trump, lui aussi, s'est exprimé pour dire, je cite, qu'on ne peut pas laisser la Pennsylvanie décider du résultat de la présidentielle et aussi pour continuer à dénoncer des fraudes. C'est ce qu'ont fait aussi des militants républicains tout à l'heure devant le Convention Center de Philadelphie où a lieu le dépouillement, comme Sam.
On compte chaque vote, oui, mais chaque vote légal seulement. On ne perd pas notre temps avec les bulletins qui sont arrivés un jour après la date de l'élection. C'est une foutue élection, la chose la plus importante dans ce pays. C'est ce qui va se passer dans les quatre prochaines années.
Voilà la colère des partisans de Donald Trump ici à Philadelphie. Et pour cause, la Pennsylvanie, c'est aussi, et puis c'est surtout 20 grands électeurs. Tous les yeux sont donc rivés sur cet État qui pourrait peut-être bientôt offrir aux États-Unis le nom de leur nouveau président.
Merci Farida Noir en direct de Philadelphie, ajoutant que signe de la nervosité des manifestants ont lieu dans les États où les opérations de dépouillement se poursuivent, notamment donc dans l'Arizona, en Pennsylvanie et en Géorgie. Un suspense à vivre sur France Inter et sur franceinter.fr.
Il est 7h06, Agnès, en France, protocole sanitaire renforcé dans les lycées et annulation de certaines épreuves du bac.
Face à la grogne des enseignants et des lycéens, le ministre de l'Éducation nationale a en effet annoncé hier soir la possibilité d'organiser la moitié des cours à distance. Chaque établissement peut en fait s'organiser comme il le souhaite. La règle, Alexis Morel, c'est que la moitié du temps scolaire se fasse en classe.
C'était l'une des revendications des enseignants mobilisés ces derniers jours. Pour limiter les brassages d'élèves, le ministre autorise clairement cette fois les proviseurs des lycées à basculer dans le fonctionnement hybride de leur choix. Division des classes et accueil au lycée en demi-groupe, un jour sur deux par exemple, ou encore accueil par niveau en alternance entre seconde, première, terminale. Un seul impératif, les élèves devront être physiquement présents en classe au moins 50% du temps scolaire. Cette organisation devra rester pérenne jusqu'aux prochaines vacances. Attention, les écoles primaires et les collèges ne sont pas concernées par ces facilités d'organisation. Autre annonce majeure, les évaluations communes du bac, c'est-à-dire les épreuves qui concernent les disciplines du tronc commun et qui sont passées en cours d'année, sont annulées en première comme en terminale. Elles seront remplacées par les notes du bulletin. En revanche, les épreuves de spécialité de terminale prévues mi-mars sont maintenues.
Des décisions annoncées après le point hebdomadaire du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a appelé hier soir les Français à surmonter leur lassitude. Nous l'entendrons dans le journal de 7h30. Face à une deuxième vague effectivement très forte, plus de 58 000 nouvelles contaminations hier et 447 malades supplémentaires en réanimation. Face à cette situation, la ville de Paris annonce de nouvelles restrictions avec un couvre-feu pour les restaurants à partir de ce soir entre 22h et 6h du matin. Finit donc les livraisons de repas et interdit également la vente d'alcool dans les épiceries de nuit. Par ailleurs, la banque alimentaire s'inquiète d'un nombre de bénéficiaires en hausse et de stocks en baisse. Yann Galic.
En Martinique, à Toulouse ou à Perpignan, les réserves de la banque alimentaire sont pratiquement épuisées. Des produits de base comme l'huile, le sucre et le café viennent à manquer. Car la demande a explosé dans certaines régions à cause de la crise sanitaire qui fragilise les plus précaires. Claude Ballan est le président de la Fédération des banques alimentaires.
Nous avons dû apporter de l'aide alimentaire à des personnes nouvelles, par exemple les étudiants. Nous avons aussi servi des familles qui s'en tiraient tout juste d'habitude grâce au prix très peu élevé des cantines scolaires et qui, pendant le confinement, ne pouvaient pas bénéficier de cette aide indirecte. Nous avons eu une augmentation du nombre de bénéficiaires entre 20 et 30 %. Et surtout, ce qu'on craint pour l'avenir, c'est les personnes qui vont perdre leur emploi.
Les stocks des banques alimentaires ont baissé de plus de 20% en moyenne, d'où l'importance de la grande collecte qui sera organisée du 27 au 29 novembre.
On demande aux Français d'être encore plus généreux que les années précédentes, vu les besoins et ce qui nous permettra de reconstituer nos stocks.
Grâce à cette collecte, les banques alimentaires peuvent récolter jusqu'à 12 000 tonnes de marchandises, soit 24 millions de repas qui pourront être distribués.
Et puis pour aider les librairies indépendantes, l'État a annoncé hier prendre en charge les livraisons. Gérald Darmanin en Tunisie aujourd'hui pour renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron était de son côté hier à la frontière franco-espagnole où il a annoncé le doublement des forces aux frontières et appelé à refonder en profondeur l'espace Schengen. Pour les oppositions de droite, c'est clair, le président fait le lien entre immigration et terrorisme. Simon Le Baron.
La menace est partout et donc pas liée à l'immigration. Ça c'est ce qu'affirmait le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian quelques heures plus tôt. Emmanuel Macron n'a, semble-t-il, pas tout à fait la même analyse.
Nous devons en effet intensifier notre lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de trafiquants qui de plus en plus souvent sont liés aux réseaux terroristes. Des actions terroristes peuvent être menées par des personnes qui utilisent les flux migratoires pour menacer le sol national.
Attention à ne pas tout confondre entre immigration légale et clandestine, précise le président. Attention à ne pas suivre les discours les plus extrêmes. Mais les oppositions s'engouffrent déjà dans la brèche. Il y a donc bien un lien entre immigration anarchique et insécurité, tweet aussitôt Marine Le Pen. Une prise de conscience présidentielle tardive, mais salutaire, abonde le député Les Républicains Julien Aubert.
Depuis trois ans, c'est plutôt la naïveté qui dominait. Avec l'idée que les gens qui parlaient des frontières étaient des dangereux nationalistes, avec le refus de faire le moindre lien entre immigration et terrorisme. Moi, j'ai envie de dire, enfin.
La droite en profite pour pousser à nouveau ses propositions. Durcissement du droit d'asile, restriction du regroupement familial, remise à plat du droit des étrangers. Emmanuel Macron ferme la porte, pas de raison selon lui de changer la loi et encore moins la Constitution. Mais son discours d'hier a bel et bien remis une pièce dans la machine sécuritaire des oppositions.
La mort hier d'un des trois derniers compagnons de la Libération. Pierre Simonet avait 99 ans. Il avait rejoint les forces françaises libres en juillet 40. Il n'avait alors que 18 ans. Il a notamment participé aux campagnes en Afrique à bord de son petit avion. Et le 8 mai 45, il passera même avec sous la Tour Eiffel. On termine avec l'appel aux dons lancé par la BNF. La Bibliothèque Nationale de France souhaite racheter pour 350 000 euros un exemplaire de l'édition originale du premier opus d'À la recherche du temps perdu du côté de chez Swann, publié en 1913. Ce qui fait surtout la richesse de l'ouvrage convoité par la BNF, Alexis de Meyer, c'est la dédicace écrite de la main de Proust.
Une lettre dédicace, longue de 8 pages, adressée à Marie Chekhevitch, figure du milieu culturel parisien du début du XXe siècle. Proust n'hésite pas à y spoiler certains rebondissements qui interviendront dans les 6 autres épisodes de cette mythique série littéraire. Laurence Angèle, présidente de la BNF.
Il révèle à son ami le futur de ses personnages et lui demande donc de garder cela secret. Et c'est donc un document qui donne à comprendre la manière dont Marcel Proust conçoit son œuvre, invente ses personnages, les inscrit dans un temps long.
Le vendeur du livre est un collectionneur privé qui souhaite garder l'anonymat. Son prix, 350 000 euros, est inférieur à celui du marché afin de permettre à la BNF de réunir la somme. Les amoureux des livres sont donc invités via le site bnf.fr à mettre la main à la poche. Laurence Angèle.
Le contexte est évidemment tout à fait particulier, mais la manière dont les Français expriment leur attachement au livre en témoigne. Les circonstances n'empêchent pas les gens de contribuer à la constitution de ce patrimoine, puisque nous préparons une exposition qui sera présentée au public en 2022.
2022, une année qui marquera le centenaire de la mort de Marcel Proust.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.